deux histoires différentes, deux auteurs différents. Le titre, L'appel du ciel et que ta volonté soit faite. Mathieu Debat et Véronique
Crenu.
Donc à vous, la parole est à vous.
Merci mon frère. Bon voilà, donc on a été présenté brièvement. Alors, on n'est pas un couple, même si on vient pour témoigner ensemble. On est des amis d'enfance en fait. Des amis d'enfance qui se sont rencontrés un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est mon petit frère qui était à l'école primaire avec son grand frère. On est tous les deux du village des Mureaux, de la ville des Mureaux. Et on s'est réellement rencontrés finalement il y a quelques années, même si on se connaissait de nom parce que nos familles étaient très amies, quoi.
On se suivait, on avait des nouvelles les uns des autres, mais c'est grâce à notre témoignage, en fait, nos témoignages, qu'on s'est rencontrés vraiment.
C'est ça. Moi, j'ai eu un témoignage de conversion. Je vais raconter après, dans les grandes lignes, ce parcours qui est un peu mieux récité à l'intérieur du petit bouquin. Mais globalement, mon histoire, c'est une histoire de conversion. Et c'est une histoire de conversion en famille. C'est-à-dire que j'étais déjà marié. Nous avions déjà 4 enfants ensemble, avec mon épouse, lorsque le Christ nous a appelés en famille. Et donc, ça s'est terminé. Enfin, l'histoire est passée par un beau jour d'avril 2013. On s'est présenté au baptême avec nos 4 enfants, tous les deux. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de conversion en famille. Bon, plus exactement, ma femme a été baptisée bébé, mais elle a fait sa première communion le jour où on a tous été baptisés et où on a fait notre première communion. Donc ça, c'était un jour de grâce. Et c'est l'histoire de ce mouvement de l'âme dont je vais témoigner. Un mouvement qui porte de l'athéisme à la fois. Véronia...
Et moi, c'est plutôt un témoignage de la foi vécue dans l'épreuve. Et je vais développer après. Mais quand on a en fait chacun écrit notre témoignage de notre côté. Et puis on s'est aperçu que si on mettait nos témoignages en commun, dans un même ouvrage, ça aurait plus de force. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'éditer ensemble.
C'est ça. Voilà, une histoire qui vous porte de... la non-connaissance de Dieu à la fois, et une deuxième histoire qui vous montre comment avec cette foi-là vous pouvez dépasser les épreuves en gardant la confiance et la joie intérieure. Donc on avait trouvé que c'était une belle réunion, puis comme on était de la même ville d'origine, on s'est dit qu'il y avait du sens à faire un seul livre avec ces deux témoignages l'un après l'autre.
Voilà. D'ailleurs la ville, c'est la ville des Mureaux où Isabelle et Pierre ont été pendant 3 ans. C'est une ville porteuse. Ouais.
Bon voilà, donc du coup maintenant moi je vais rentrer dans... 15-20 minutes, je te laisse la parole à 40, tu mets un grand coup de coude si tu vois que je parle trop. Voilà, donc pour mon histoire, alors moi j'ai un frère, une petite famille de 2 garçons, et puis mes parents étaient dans une mouvance plutôt un peu mai 68, en fait c'est cette génération qui s'est éloignée de beaucoup de d'us et peut-être de carcans d'une certaine époque, mais en rejetant en bloc un certain nombre de choses. Ils avaient des vraies valeurs humaines, ils avaient un vrai désir d'aller vers l'autre et nous emmenaient en voyage, ils emmenaient toujours des petits cadeaux souvenirs pour offrir, etc. Donc ils nous ont élevés dans une sorte d'humanité, je dirais, mais avec une défiance envers la religion, je pense une certaine blessure vis-à-vis d'un certain clergé. Je pense qu'ils en retenaient surtout l'image d'une partie, de la partie un peu scandaleuse qui agite parfois les médias, et en fait marqué par ça, marqué par des épreuves de la vie aussi. Ma mère avait perdu son frère quand elle avait une 20aine d'années par suicide sous le toit de sa propre maison avec le fusil de chasse de mon grand-père. Je pense que ça a été la blessure qui a fini de casser un lien qui était déjà assez ténu en fait. Et donc mes deux parents nous ont élevés sans nous catéchiser. En apparence, en tout cas le message qui nous était donné, c'était qu'ils ne voulaient pas nous influencer et que quand on serait grand, on serait libre de choisir une religion, celle qu'on voudrait, puisque dans leur esprit, globalement, elles se valaient toutes. Donc voilà comment s'est passée un peu notre enfance. Autant vous dire qu'arrivé à l'âge adulte, j'avais entendu parler de Jésus, évidemment, parce qu'à l'inverse, nos grands-parents étaient plutôt très croyants. Mais en fait, comme ils avaient tendance à beaucoup en parler, nous, on avait développé une sorte de blocage vis-à-vis de ça. Hein. Vous qui connaissez mes grands-parents, vous voyez très bien. Mais de l'autre côté, mes autres grands-parents, c'était un peu ça aussi. Eux, ils étaient protestants évangéliques et très dans une démarche de conversion qui nous avait saturés assez vite. Et donc, mon frère et moi, on est arrivés à un moment donné où quand on entendait le mot Dieu, on éprouvait un certain malaise, en fait. Voilà. C'est pour vous dire jusqu'où était allé ce blocage. Et donc... on était bien loin d'avoir le désir d'en savoir plus et encore moins celui de se rapprocher d'une certaine divinité, quoi. Et pour autant, on ne manquait pas d'appétit spirituel. En tout cas, on avait ce désir de savoir pourquoi on est là, d'où on vient, qui on est vraiment. Et ce désir spirituel, pour moi, dans ma jeunesse, il s'est comblé par la pratique des arts martiaux d'Extrême-Orient, qui ont une composante spirituelle quand même forte, mais qui ne va pas aussi loin que la spiritualité chrétienne. C'est une spiritualité terrestre, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience d'avoir un esprit, on en explore les capacités, donc il y a une partie de méditation transcendantale, une recherche de pleine conscience, etc. Ça répond à un moment donné à un certain appétit, mais il y a un moment donné où en tout cas ça ne suffit plus, quoi. Et donc je me souviens qu'étant au lycée, mes parents m'avaient mis dans un lycée catholique sous contrat, enfin comme il y en a plein en France, parce que le niveau était bon, quoi. Et en fait, de temps en temps, on avait une conférence. On avait des gens qui venaient témoigner. C'était Notre-Dame des Oiseaux à Verneuil, pour ceux qui connaissent la région. On avait des gens qui venaient témoigner. Et je me souviens d'un groupe de jeunes qui étaient venus témoigner de leur foi. Ils avaient partagé un voyage qu'ils avaient fait ensemble, garçons et filles, mais dans un esprit de chasteté. J'avais rien compris à ce qu'ils m'avaient raconté. J'avais trouvé ça étrange. Et donc, j'avais un peu titillé avec le pari de Pascal en leur disant... Non, c'était pas le pari de Pascal. Alors, ils disaient, est-ce que Dieu peut créer une pierre aussi lourde qu'il soit pas capable de la soulever derrière? Et il m'a répondu, mais Dieu est bien au-dessus de la matière. En fait, il m'avait renvoyé boulet, je les avais trouvés prétentieux, et en fait, ça avait rien donné de constructif. Donc, je me souviens de cet état d'esprit dans lequel j'étais, d'un espèce de mépris, en fait, des gens qui étaient croyants, que je pense que j'ai hérité, et puis que je nourrissais. Voilà, donc ça, c'est le terreau de départ. Et ce que je trouve merveilleux dans ce que Dieu a fait pour ma famille et moi, c'est comment il est allé déconstruire ce terreau pour nous amener où on est maintenant, où on chemine maintenant, avec une foi vraiment chevillée, quoi. Et alors, il s'y est pris avec énormément de patience, et je pense qu'on pouvait pas faire autrement. Mais en fait, il m'a amené petit à petit face à mes incohérences. Donc je me suis tapé la tête sur les murs, hein, dans les épreuves de la vie, je me rendais compte que je pouvais pas me suffire à moi-même. Et puis il m'a amené à des rencontres. À un moment donné, j'ai embrassé la carrière des armes. Je ne sais pas si c'est une continuité logique, hein, quand on a baigné dans les arts martiaux toute son enfance, de continuer dans la carrière des armes, mais en tout cas, moi, j'y ai vu un cheminement plutôt logique et qui répondait à mes aspirations au début, en tout cas, d'aventure, de sport, de rencontres humaines et puis d'exigences intellectuelles aussi. Et par la suite, fort heureusement pour moi, j'en étais pas du tout conscient au départ, mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a aussi un esprit de service. Et quand on me disait l'esprit de service quand j'avais 20 ans, ça me semblait de la littérature. Aujourd'hui, c'est ce qui me tire en avant. Et donc, les raisons pour lesquelles je suis rentré ne sont pas celles pour lesquelles je reste. Et heureusement pour moi, il y avait cette richesse qui permettait la continuité. Et donc, à l'intérieur de cette institution militaire, eh bien, j'ai rencontré à la fois des gens qui m'ont conforté dans l'idée qu'il fallait que je reste très loin de la foi, des croyants affichés, mais qui méprisaient le pauvre, qui restaient entre soi, qui avait une attitude clivante, et j'ai été extrêmement dérangé, et j'avais surtout pas envie de ressembler à ces gens-là, un peu mondains en fait. Ça m'avait beaucoup dérangé. Et donc il y a eu une première phase pendant laquelle j'ai eu un deuxième mouvement de recul avec ce constat-là. Mais par la suite, le bon Dieu m'a aussi amené à croiser, et notamment en opération extérieure, des gens avec une foi extrêmement simple et éclairante, des prêtres aux armées, des prêtres du diocèse aux armées, qui nous suivaient dans les opérations, qui globalement cherchaient pas à nous embarquer dans leur idéologie, mais qui étaient présents pour écouter avec bienveillance, et parfois un regard, ça fait plus qu'une parole encore. Voilà. Et donc ces rencontres là qui sont détaillées, hein, je vais pas en revenir parce que sinon, enfin, je voudrais que t'aies quand même le temps de raconter ton histoire, mais ces rencontres là je pense qu'elles ont été comme des vagues sur une muraille. Donc petit à petit, le mur s'est fissuré, le mauvais mur, hein, s'entend, et il a fini par basculer le jour où c'était prêt, quoi. Et ça s'est fait d'une manière très surprenante. C'est-à-dire que pendant des années, tout ce qui était argument rationnel pour me convaincre de l'existence de Dieu, de l'histoire de la Bible, etc., n'ont jamais atteint de cible en moi-même. Parce que c'est très facile de réfuter un argument rationnel avec un autre, hein, même s'il n'est pas forcément valable. Mais en revanche, à un moment donné, il s'est passé pour moi quelque chose de complètement irrationnel et qui a fait chavirer en moi-même les digues qui étaient encore debout, quoi. Et alors, cette histoire-là, eh bien, ça se passe dans une forêt. Ça se passe dans un bois, là, un peu comme ici à côté, mais au sud de Paris, dans la forêt de Montlhéry. Je viens d'être affecté dans un lycée militaire comme cadre. Et puis j'écoute le prêtre là qui célèbre. Alors, je comprends pas tout à ce qui se passe. Hein. Je suis allé à la messe un peu par hasard ce jour-là. Vous doutez bien, hein, pas baptisé, pas croyant, qu'est-ce que je fais à la messe? Ben, en fait, mon prédécesseur avait organisé une messe, c'était une période militaire de 7 jours. Et c'était moi le nouveau chef, donc je suis l'emploi du temps, quoi. Et donc je comprends que c'est l'adjoint de l'évêque aux armées qui vient. Je me dis, mince, c'est un mec important qui déboule. On va pas arriver à trois pelés, quoi. Donc j'embarque tous les élèves, je suis un peu de retard, et puis j'y vais, exemplarité oblige, quoi. Et donc je me retrouve embarqué là-dedans, il fait sa messe. Et puis c'était un bon bonhomme, un bon pépère, avec un air gentil, tout simple. Et j'ai eu envie de lui parler. Et donc à la fin, je suis allé le rencontrer, et j'ai discuté avec lui. On a marché tous les deux là, sur le sentier qui était dans la forêt, juste en sortir de la chapelle. Et donc je lui raconte toute cette histoire. Je lui raconte mon histoire, qui était passée par, ce dont je n'ai pas parlé, un retour progressif, en tout cas une arrivée progressive à une vie de prière. Alors c'est très surprenant pour quelqu'un qui ne semblait pas croyant. Mais parce que j'avais lu un bouquin qui s'appelle « Conversation avec Dieu » et qui mettait en scène un type qui a une conversation directe avec le Créateur et qui reçoit des réponses. Donc lui, il prétend que c'est vrai, hein, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, ce livre-là, il a eu pour effet de restaurer chez moi l'envie de parler à un Dieu que je sentais présent. Donc ça, déjà, c'était un changement fondamental. Alors peut-être que je vous ai perdu parce que je suis revenu en arrière par rapport à mon épisode de la forêt, je suis vraiment désolé, mais voilà, il y a eu ce terrain qui a été préparé comme ça. Et il s'est poursuivi par la découverte des évangiles peu de temps après. Il y a eu d'autres étapes entre les deux que je ne décris pas, hein, volontairement. Mais la lecture des évangiles, ça a été une deuxième vague puissante sur mon mur, là. Parce que j'ai eu à nouveau ce sentiment de certitude intérieure en lisant les faits et gestes de Jésus, que tout ça était vrai et que tout ça était actuel. Actuel en moi-même. Mais malgré ça, même si après m'être adressé à Dieu, j'ai commencé à m'adresser à Jésus, malgré ça, j'étais persuadé que le baptême, c'était juste un décorum, en fait. Pour moi, la notion de sacrement m'était totalement étrangère. Je pensais que c'était fait pour transmettre la foi d'une génération à l'autre, quelque chose de visible auquel s'accrocher, qu'il n'y avait pas de réalité spirituelle derrière. Donc je butais là-dessus. Voilà. Et donc j'en reviens à ma chapelle dans les bois. Et donc je lui raconte tout ça. J'avais essayé par mille moyens de trouver qu'est-ce qui était vrai, finalement. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui était vrai. Je trouvais pas. Je m'étais adressé à l'auteur de conversation avec Dieu. J'avais envoyé un mail là. Puis sa secrétaire m'avait répondu « Fais ce que tu veux. Dieu t'aimera quand même. » Moi, j'étais pas plus avancé, quoi. Et donc, je lui raconte tout ça. Et puis, à la fin, lui, il ouvre ses mains comme ça. Et il me dit « Mais, vu tout ce que tu viens de me dire, pourquoi être différent ?» Ça voulait rien dire. En tout cas, ça, c'était pas l'argument rationnel qui venait bousculer mes non-certitudes. Mais il y a eu un truc dans son attitude, dans son regard et dans ses mains qui ont fait tomber en moi cette dernière digue, qui m'ont embarqué, quoi. Et à partir de là, moi, j'ai décidé de m'engager sur le chemin du baptême. Donc je me suis déclaré auprès de l'aumônerie et puis je suis rentré en catéchuménat avec les élèves du lycée qui avaient eu une démarche similaire. C'était une nuit de grâce. Hein. Cette nuit dans la chapelle, il y a eu plusieurs vocations au baptême. Et alors, ce qui est intéressant, je pense, maintenant, c'est ce chemin entre la décision d'entrer en catéchuménat et le baptême qui a été pour moi semé d'embûches. Alors je vous passe en même temps le parcours de mon épouse, le parcours des enfants. C'est tout un cheminement ensemble, pas à la même vitesse, mais en tout cas un mouvement dans la même direction. Et il a vraiment été semé d'embûches. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais très heureux d'avoir fait ce choix et je sentais que c'était le bon, et d'autres où j'étais assailli par des doutes immenses, à tel point que je passais des nuits pas loin d'être blanche. C'est-à-dire que j'étais torturé, en fait, intérieurement. Je me retournais, j'avais l'impression d'avoir pris une mauvaise décision, mais dans quoi je me suis embarqué, et j'ai la manche prise dans l'engrenage. Qu'est-ce que je vais dire à tous ceux à qui j'ai toujours dit que la foi, c'était une bêtise? Comment je vais affronter la joie de mes proches, mes grands-parents, qui me voient me tourner vers la foi? Comment je vais affronter leur joie? Vous imaginez? L'orgueil blessé, quoi. Voilà, et puis vraiment une torture. Vraiment une torture. C'est-à-dire, d'habitude, je dors très très bien. J'ai aucun problème pour dormir, quoi. Mais à ce moment-là, c'était terrible. Et puis, il y a eu cette nuit, là, du 11 au 12, je crois, novembre. Donc, on est en 2012, hein, c'est quelques mois avant le baptême. Où je pense que là, il y a eu le pic de ces agressions, parce que je suis convaincu que ce sont des agressions. Le pic et la fin. C'est-à-dire que ce jour-là, je me réveille, je suis pas bien. Sybille, qui est la grande sœur immédiate de Marie, qui était tout bébé à l'époque. Non, il y a Samuel entre les deux, pardon. Je m'y perds. Sybille pleure. Voilà, elle pleurait toutes les nuits. Hein. On dormait pas beaucoup à cause d'elle déjà, mais là pour le coup, je suis réveillé par elle. Mais en fait, aussitôt, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me sens pas bien, comme si j'avais une présence horrible, une présence horrible en moi, comme si j'avais commis un crime et je me sentais coupable. Vous voyez, mais une culpabilité d'une densité pratiquement matérielle entre les deux omoplates derrière et en moi. Et donc ça va pas, et je commence à me taper la tête physiquement sur les murs. Virginie elle se réveille, elle me récupère Sybille, elle m'envoie prendre une douche froide, mais ça n'allait pas mieux. Je fais les 100 pas dehors, en novembre, il faisait froid, hein, c'est pas Aix-en-Provence. Donc ça n'allait pas mieux, et à un moment donné, dépité quoi. Je pense même à me jeter d'une falaise pour vous dire les idées qui me venaient tellement je me sentais pas bien. Je m'assois et je commence à prier, et instantanément le truc disparaît quoi. Ça se transforme en picotement, la sensation, ça remonte, et puis ça disparaît. Donc physiquement j'ai ressenti un truc, voilà. Et j'en ai pas parlé, à part Virginie qui avait vu la chose, j'en ai pas parlé pendant des mois. Je pensais passer pour un fou. J'ai pas forcément fait le lien avec le fait religieux, même si je sentais bien que Jésus avait fait quelque chose pour moi à ce moment-là. Et j'ai fini par m'en ouvrir à un prêtre quelques mois après, un aumônier d'un endroit où j'étais en stage, et qui m'a dit « Oui, mais c'est évident, en fait, c'est même plutôt classique, le démon va perdre une âme, et donc il s'acharne. » Et donc il y a eu les arguments rationnels qui m'ont empêché de dormir, et il y a eu cette attaque quasiment physique, comme un dernier assaut, comme la dernière tentative, la dernière tentation, je ne sais pas. Voilà, mais à partir de là, c'était fini, quoi. J'ai plus été embêté et j'ai avancé vers le baptême dans une joie incroyable. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves. Hein. Nous, on en a eu plein. La première messe, mon fils s'est fracassé la tête sur une bouche d'égout en glissant quand on est revenu. À chaque fois qu'on a eu des mouvements là pour venir ici, ces 4 derniers jours, je peux vous dire qu'ils ont été terribles. J'ai été tenté par la tristesse, par la colère, par le désespoir. Il m'est arrivé plein de trucs. Et Véronia, c'est pareil, elle a loupé son train. Et donc moi, je suis persuadé que quand la grâce va surabonder, le démon s'agite un peu avant, quoi. Ah, pour l'avoir vécu. Et vous l'avez vécu, vous aussi, manifestement. Voilà, donc il est déjà 14h40. J'en dis pas beaucoup plus pour que tu aies le temps de t'exprimer. Je voulais simplement vous dire que je veux pas donner l'image que ces épreuves étant passées, j'ai une vie de félicité. En fait, la foi éclaire, mais elle supprime pas les épreuves. Ça, vous le savez mieux que moi, certainement. Vous êtes chrétien depuis plus longtemps. Mais c'est une telle beauté de pouvoir vivre ces épreuves dans la confiance, d'être porté par une joie qui, même si parfois faiblit, revient toujours, parce que la miséricorde de Dieu est si infinie qu'elle nous relève à chaque fois qu'on en a besoin, si on pense et qu'on désire s'appuyer sur elle, quoi. Donc ça, c'est mon témoignage, et du coup, ça fait une transition vers
le mien. Vers le tien. Alors moi, j'avais déjà une foi bien ancrée. Quand l'histoire que je vais vous raconter a commencé, j'avais une foi tellement ancrée que j'avais envie de me marier avec quelqu'un pour cheminer justement vers le Christ. Donc, j'habitais à Paris, mais je sais pas, j'arrivais pas à rencontrer d'hommes chrétiens à Paris. Donc, je me suis inscrite sur le site internet Théotokos. Et là, ça a été une horreur, une catastrophe pendant un mois de rencontres plus minables les unes que les autres. Minables parce que c'était des blessures de chaque côté, etc. Je prends la décision de fermer mon compte, mais quand même, je fais un petit dernier tour avant de le fermer, on ne sait jamais. Et là, je vois une annonce d'un gars qui clairement cherchait la femme de sa vie, et je lui réponds du tac au tac, écoute, prépare le mariage, je vais chercher ma mère, on achète la robe et on arrive. Ce sur quoi il me dit, non, le mariage, ça se prépare pas comme ça, on le prépare à deux et on commence à préparer le mariage, effectivement.
Sans s'être rencontrés.
C'est les premiers échanges de mails. Mais alors, c'est des échanges, trois mails, et au bout de trois mails assez drôles, faut avouer, j'ai plus aucune réponse. Et là, je me dis, le gars, il joue sur deux tableaux, il me fait poireauter en attendant de savoir si de l'autre côté ça peut marcher, voilà, et pendant 10 jours, je n'ai aucune réponse, et au 10e jour, j'ai un mail qui me dit « Je suis désolée, j'ai attrapé un virus, j'ai pas pu te répondre. » Et moi, je me dis intérieurement « Mais c'est quoi un virus qui t'empêche d'allumer ton ordinateur ?» Sérieusement. Donc, je lui écris un mail salé. J'allais appuyer sur Enter quand j'entends une petite voix intérieure qu'il faut toujours que j'écoute parce que quand je l'écoute pas, ça va pas. Et qui me dit, tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Alors, je prends un temps d'arrêt, j'efface tout mon mail et je lui mets, en fait, c'est quoi ce virus ? Et là, réponse assez argumentée en disant, tu as raison de vouloir le savoir. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux regarder ce témoignage que j'ai fait à la télévision romande, suisse romande. Clique sur ce lien. Donc je clique sur ce lien et c'est là où il décrit comment il vit sa maladie dans la foi. Et sa maladie, c'était un cancer du cerveau. Et moi, au moment où je vois cette vidéo, ma pensée, c'est pas « wow », c'est « waouh ! Il a une foi du tonnerre, c'est lui que je veux ! » Et en plus, il avait un tatouage. Et je trouvais ça trop classe. Donc je lui réponds, écoute, c'est extraordinaire, voilà ce que je pense, etc. Et on est parti comme ça dans une histoire très intense et très drôle. Il avait un cancer du cerveau depuis 5 ans, mais il vivait très bien, c'est-à-dire c'était un grand sportif, il faisait des 4000 en montagne, il était juriste à l'État de Genève. À part ses chimios, il n'y avait rien qui laissait entrevoir les effets du cancer. Donc, voilà, on a... J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas vous raconter tous les détails que je raconte dans le livre. Et je voudrais juste surtout vous montrer, en fait, combien Dieu nous a accompagnés dans notre chemin. Ça, c'était en mars 2013. Je déménage en février 2014 à Genève. Ah oui, j'avais pas lu dans l'annonce que c'était en Suisse et à Genève, mais bon, j'ai dû faire avec. Donc, je déménage en Suisse à Genève. On se marie civilement le jour du printemps, le 21 mars. Et il est opéré les médecins... espérer pouvoir retirer la tumeur et il a été opéré le 8 avril alors qu'il allait bien, il aurait pu continuer, il n'y avait pas d'autre raison, c'était pas en train de grandir ou quoi, mais c'était l'espoir qu'on puisse retirer sa tumeur était là, donc on a pris cette option là. Voilà. À partir de ce moment-là, nous, on prépare notre mariage. Et d'un côté, il s'en est jamais vraiment remis de cette opération du cerveau. Et sa santé se dégrade. En juillet, on apprend fin juillet, le médecin me prend à part et me dit clairement « ça va pas durer des mois, ça va durer des semaines. » Et nous, on devait se marier le 22 août. Et je lui dis, ben on fait quoi ? On arrête tout ou on y va ? Il me dit, si vous arrêtez, ça va l'anéantir. D'accord ? Donc, on va y aller. Donc, en même temps que j'apprends ça et que le lendemain, il le dit aussi très clairement à David, nous, notre morale était dans les chaussettes. Et en même temps, il y avait tout le mariage à préparer. Mais ma mère m'appelle en pleurs des mureaux, comme quoi la robe que je venais de faire était une catastrophe. La couturière l'avait complètement foirée. Et à tel point qu'il y avait même la craie, vous savez, des coutures... Mais vraiment, elle avait fait n'importe quoi. Et donc, elle m'appelle en pleurs en me disant « Oui, mais si tu m'avais écouté, t'aurais vu l'autre styliste, etc. » Et je dis « Écoute, maman, prends rendez-vous avec le styliste si je dois monter à Paris. » Et ben voilà. Donc, je laisse David avec son frère. Et là, j'apprends aussi que la personne qui devait me faire mon bouquet de fleurs me dit que les fleuristes sont fermés à Paris. Donc, qu'il ne peut pas me le faire. Et donc, j'avais ni la robe, ni la coiffure, ni le bouquet à 3 semaines du mariage, sachant que mon mari n'allait pas tenir longtemps. Donc là, j'ai dit, maman Marie, toi, t'es une femme, Tu sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Et effectivement, ma mère appelle cette autre styliste. Je ne me rappelle jamais de son prénom. Je ne sais plus si c'est Marie-Gabrielle ou Marie-Ange. En tout cas, elle le porte bien. On va la voir et elle nous dit, écoutez, mettez tout, ne touchez pas à la robe, mettez tout dans le bouquet et dans la coiffure. Voilà, ça c'est pour vous dire comment mon mari m'avait guidée pour tous ces soucis de dernière minute, mais quand même, qui étaient quand même pesantes pendant les préparatifs du mariage. Pendant ce temps-là, David, il était, on cherchait un chemin pour sur l'épreuve de la maladie, et on reçoit de deux personnes différentes la même adresse. C'est-à-dire, David était protestant. Donc on reçoit l'adresse d'un pasteur qui faisait des guérisons. Et le pasteur répond tout de suite, il arrive avec sa femme et il vient prier pour la guérison de David dans notre petite cuisine. À ce moment-là, je ne sais pas vous dire ce qui s'est passé, mais moi j'ai senti la cuisine qui... Bon, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, hein, visuellement, on est d'accord, mais qui faisait... qui s'ouvrait et il est resté une heure. Et ils sont restés une heure et ils sont repartis au bout d'une heure. Et nous, on n'a pas parlé après. On est restés juste comme ça en se disant « Waouh !» Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas de quoi David a été guéri, mais ça, je suis sûre qu'il a été guéri de quelque chose. En tout cas, on est toujours sur cette route où... depuis le début que moi, j'ai rencontré David, c'est... Il y a deux chemins possibles, soit il va guérir et puis ça va être bien, soit il va pas guérir et puis il va aller au ciel et puis ça va être bien. Dans les deux cas, on pourra pas nous voler ce que on vit, donc on va continuer. Et on avait décidé une semaine avant le mariage de partir à Loëche-les-Bains. Donc Loëche-les-Bains, c'est un endroit où il y a des cures thermales, on se repose et on voulait décompresser tout ça. Sauf que quand on arrive à Loëche-les-Bains, David descend du bus et il n'arrive plus à marcher. Et on met une heure pour rejoindre l'hôtel qui était à 5 minutes à pied. Mais en fait, on le rejoint en taxi parce que c'était impossible de faire autrement. À ce moment-là, le soir, on remet ça dans la prière. Et nous, on priait tous les soirs avec une application où on avait l'évangile et le commentaire de l'évangile. Et le commentaire ce soir-là, on pose vraiment la question à Dieu, mais Seigneur, est-ce que notre mariage est dans une semaine, David a arrêté de marcher, est-ce qu'on annule ou pas? Et le commentaire de l'évangile de Mère Teresa, j'entends encore des frissons, c'est... Avancer, même quand tout semble impossible, rien n'est impossible à Dieu. Et on avait notre réponse. Donc, on devait y aller. On ne savait pas comment, mais on devait y aller. Et on ne devait pas annuler. Le dimanche, sa mère nous raccompagne à Genève. Et on devait partir le lundi. Le lundi, David se lève et me dit... Je ne vais pas pouvoir y aller. Le mardi, il se lève en me disant « pas de force ». Et là, je dis « d'accord, mais demain, on est mercredi, on se marie vendredi. Si demain, tu n'y arrives pas, on annule le mariage. » Parce que les gens, ils venaient du Canada, ils venaient de Pologne, ils venaient de... Et il faut quand même les prévenir, quoi. Et donc, le mercredi... J'arrive de chez l'esthéticienne bien en retard parce qu'elle avait fait, elle avait vraiment pris son temps, ce qui m'a bien stressée. Et David, à 1h de l'après-midi, était toujours au lit, en pyjama, il n'avait pas bougé. Et là, le train est à 3h, et là, je m'assois sur le lit en me disant, écoute, le bon Dieu, il sait qu'on n'est pas maître de l'impossible, on a fait ce qu'on a pu, et ben on va annuler, quoi. Et j'entends sa voix qui me dit, attends, je me prépare. Il se lève, il va dans la salle de bain, il prend sa douche, je ne sais pas comment il arrive à se préparer. Moi, j'appelle un taxi et on part à la gare. Et moi, j'avais tout prévu, quelque chose de pas du tout stressant, parce que je savais qu'il fallait surtout pas de stress. Donc, on va à la gare bien en avance, on prend un café et on monte sur le quai. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. David a pris tellement de temps pour descendre, pour aller au taxi, que le taxi a dû nous déposer tout de suite à l'entrée du tunnel pour passer la douane et aller sur le quai. Je ne sais pas comment il a fait pour marcher tout le tunnel. Je pense que c'est parce qu'il était sportif de haut niveau qu'il a suggéré son physique. On arrive sur le quai, il y avait un monde noir. D'habitude, il y a le train toujours à quai. Là, ce n'était pas du tout le cas. C'était la panique, il y avait les gens dans tous les sens. Et là, il y a une dame qui nous voit vraiment en difficulté, qui nous prend la valise et qui nous dit « Je vais vous aider, je vous amène votre valise à votre voiture. » Et moi, je lui dis « La voiture, elle va à l'autre bout du quai, en fait. » Et moi, je suis là avec David d'un côté et puis la valise de l'autre. Il s'assoit et je lui dis « Je vais récupérer la valise, je reviens. » Et je dis au contrôleur « Aidez-le à monter parce qu'il n'y arrivera pas tout seul. » Et je file chercher la valise. Le train arrive, les gens montent dans le train. Je reviens et je vois David assis tout seul sur le quai et les contrôleurs devant lui. Je vais les voir et je leur dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne l'avez pas fait monter dans le train ?»« Ah, mais il a fait un malaise, vous inquiétez pas madame, on comprend, l'ambulance arrive. » Je fais quoi ? L'ambulance arrive, mais non, on va se marier, il faut absolument qu'on monte dans le train, etc. Et là, moi, je fonds, quoi. J'en peux plus, j'ai les nerfs qui lâchent. David se lève pour essayer de les convaincre. Et le train allait partir. Et on entend du fond du tunnel la voix d'un employé qui dit « Attendez, attendez avant de fermer les portes, une famille est en retard. Attendez, attendez !» Là, je prends la valise et je dis « David, monte !» Et je balance la valise dans le train. Et je ne sais pas comment il est monté. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais moi, je me suis effondrée comme ça devant les strapontins. Lui, je l'ai vu après sur le strapontin en train d'essayer de reprendre son souffle pendant quelques minutes. Et ensuite, j'ai prévenu ma famille qu'on était dans le train. Et mon frère m'a dit, je n'ai jamais été aussi content d'apprendre ta venue. Voilà. On a réussi à aller à Paris. Donc le trajet, c'est vraiment lui qui a géré. Et moi, j'étais prise de remords à ce moment-là. Et j'ai dit, ouais, mais on aurait peut-être dû aller en montagne cet hiver. Ça t'aurait ressourcé, etc. Et il m'a dit... je ne regrette rien de ce qui nous est arrivé. Voilà. Donc, on arrive à Paris, ma mère nous récupère. Le mariage, je ne sais pas s'il va avoir lieu tant que David n'est pas dans l'église. Il arrive en fauteuil roulant. Tout le monde s'arrange pour que nous faciliter la vie. Et je crois que vraiment, il a tout donné, en fait, pour pouvoir se marier. Il fallait revenir à Genève. Et on revient une semaine après à Genève. On va directement aux soins palliatifs. Non, on met 2 jours avant d'aller aux soins palliatifs. Et ensuite c'était... il a eu une place pratiquement tout de suite. Et 2 semaines plus tard, on a pris la décision de l'endormir parce qu'il avait tellement de souffrance que... les médicaments n'arrivaient plus, il n'arrivait plus à les. Ses veines, enfin, tous ses veines avaient pété, il n'arrivait plus à recevoir les calmants. Et du coup, un dimanche après-midi, on prend la décision de l'endormir, mais quand on prend cette décision-là, les médecins ne l'endorment pas tout de suite. Ils nous demandent de les appeler au bon moment, quoi. Et nous, on a encore un peu de temps, du coup. Et ben, j'utilise ce temps, je lui propose de prier. Et il me dit d'accord. Et au lieu d'être dans la douleur, c'était notre dernière prière. C'était extraordinaire parce qu'il était dans la joie. Il disait, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci Seigneur, tu m'as trop donné. Je fais, mais non David, il veut te donner, prends. Seigneur, donne-moi. C'était... C'était assez surréaliste. Voilà, il a été endormi le dimanche à 5h. Et puis, pendant 4 jours, il a été... je pense qu'il a bien souffert. Et le jeudi matin, je me lève et je sais qu'il va partir. Je suis intimement convaincue qu'il va partir. Je dors dans sa chambre et je sais aussi que quand il va partir, je serai là. Donc, je vais prendre ma douche. Et en prenant ma douche, je chante les louanges du Seigneur parce que ça va être trop beau, quoi. Et voilà, je reviens et à midi, on est avec sa mère, chacune du côté du lit. Et là, c'est comme si j'étais, alors physiquement j'étais à côté de son lit, mais c'est comme si j'étais au-dessus de son lit, au niveau de son oreiller, en fait au-dessus de lui, en le tenant par la main. Et devant nous, il y a une grande présence de... Pour moi, c'était clair. J'ai pas vu, hein, j'ai vu personne. J'ai vu juste beaucoup de lumière et j'ai perçu beaucoup de lumière et une grande présence. Et j'ai été à ce moment-là brûlée par la joie, une joie qui s'est peut-être réduite en intensité parce que sinon c'est trop fort, le corps peut pas supporter quoi. Mais qui m'habite toujours. Et je lâche la main de David. C'est comme si mon âme lâchait la main de David et l'âme de David part vers cette présence. Et moi, je me réveille, si vous voulez, à côté de son lit. Enfin, non, c'est pas que je me réveille parce que je dormais pas. Je vois très bien comment ça s'est passé. Mais en tout cas, je reviens dans mon corps et je regarde David et c'est son dernier souffle qu'il donne à ce moment-là. Et moi, je sais qu'il est parti. Enfin, du coup, je l'ai vraiment vu partir. Sa mère, elle dit qu'elle a vu comme un halo de lumière qui nous englobait tous les deux pendant 2-3 secondes. Et après, il a arrêté de respirer. Voilà. Ça, c'est comment il est parti. C'était en septembre, le 18 septembre 2014. Et moi, j'ai mes 30 ans le 19 septembre 2014. Et pour moi... Son départ a été vraiment... Alors oui, c'était mon mari, c'était l'homme avec qui j'aurais voulu vivre sur Terre, mais c'était un gros cadeau qui me donnait. Et puis, la période de deuil a commencé. Une période où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais j'ai appris que le Seigneur, en fait, il ne s'arrête pas à un énorme cadeau qu'il donne dans la vie. Et en venant ici, mon deuxième mari m'a dit « Ok, pour que tu témoignes de ton histoire avec David, mais il faudra que tu écrives une suite parce que voilà. » Et lui aussi, il a eu... d'autres cadeaux du ciel, puisqu'il est veuf et il a trois chouettes enfants. Et puis moi, j'ai reçu, du coup, en plus de toute cette histoire-là, d'autres beaux cadeaux. Et j'ai 4 merveilleux trésors dont je dois m'occuper aujourd'hui. Merci. Bravo. Bravo.